Quand j'ai annoncé à Oscar, mon fils, que mon grand-père avait été apiculteur, il m'a regardé comme si nous étions issus d'une grande lignée de rois perses ou d'une famille de Jedi.
Wow.
Il a fait.
Comme toi, papa.
Pas tout à fait, Oscar. Moi, c'est un peu différent.
Ce n'est pas de Jedi qui veut. J'ai vu dans son regard véron et ses pupilles de 8 ans qu'il avait à peu près compris ce que je venais de lui dire. Puis il est allé dans sa chambre et pousseté sa collection de casques de réalité virtuelle. J'avais eu droit à mes 3 minutes d'attention et vu l'état de nos gosses en 2060, j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Pourtant, croyez-moi, les apiculteurs les avaient prévenus. Suite à la grande intoxication de 2031, liée à l'arrivée du Saver, un pesticide surpuissant de chez Monsanto Bayer, l'abeille et tous les pollinisateurs avaient bel et bien disparu de la surface de la Terre. Ou presque. Il restait quelques essaims rebelles en Islande, sur les deux pôles et aux îles du Tonga. 4 points de suspension, rien que ça. Voilà comment planter le décor. Voilà comment plomber l'ambiance. Ça, c'est fait. Les discours des mielleux s'étaient perdus dans les couloirs interminables et glacés des multinationales parce que les puissants n'avaient pas voulu écouter les hommes en blanc. Parce que Nature Inc. était plutôt mal coté sur les places financières. Après le carnage, ça a été très vite. On a manqué tout. On a produit toujours la même chose. Patates, maïs, blé, les haricots bleus, blancs et rouges. Monoculture, monotonie, mort par suicide sur monocorde. Grande famine et carence en tout. Paniqués par les chutes vertigineuses des bourses, les gouvernements mouillèrent leur col blanc. On créa une abeille super puissante, super résistante, une performance génétique. Apis Calypso, l'abeille OGM. Sauf qu'on oublia un léger détail, les effets cocktails dus aux autres pesticides. Parce qu'un pesticide plus un pesticide, ça fait pas de pesticide, mais un troisième pesticide, une surprise chimique. Et comme un dessin à la craie sous la pluie, en moins d'un an, Apis Calypso s'était effacé de la terre. Basta. Réunion de crise au pluriel, prise de bec et plomb dans l'aile. On pollinisa alors à la main. Ce fut peu onéreux, certes, puisqu'on y envoya les détenus, les réfugiés, les migrants, les chômeurs, mais si faible en rendement comparé à celui des insectes. Une crotte de mouche dans un champ d'épandage. C'est à ce moment-là qu'arrive Roby. Prouesse technologique de 30 grammes, raffinée à souhait, avec ses petits anneaux jaunes soufre et ses petits panneaux solaires sur son petit abdomen. Pâte en titane, grise anthracite. 200 battements d'ailes secondes, aucun bruit. Une merveille. Un fleuron franco-français. Fabrication en série pour relance de l'économie et effet boomerang garanti. Une hérésie à vous foutre le bourdon, ouais. Un gouffre financier dans lequel nous sommes tous tombés dardard. Pas de quoi rigoler. Les microprocesseurs de ces engins coûtaient une fortune. Bourrés de matières premières introuvables, extrêmement fragiles, trop sensibles aux pluies acides de notre époque et... Cerise sur le gâteau, il rendait agressifs les oiseaux qui avaient survécu et qui les dégommaient par milliers à coups de bec sec. Berk. Espérance de vie moindre que nos abeilles sous pesticides. Rentabilité moins de zéro. Et chute à la perpendiculaire des marchés. Penseurs et scientifiques de ce beau monde moderne en arrivèrent alors à des conclusions hautement réfléchies. Rien ne valait l'efficacité et le travail des abeilles. Rien ne pouvait les remplacer. C'était là l'enseignement d'une étude de plusieurs années et de milliers de pages. Les Happy Days de l'apiculture.
Papa, c'est vrai que les mouches, quand on les courait après, avec la main, on pouvait les attraper sans être piqué. Les mouches.
Les mouches, oui, Charlie. Pas les abeilles. Les abeilles ont toujours piqué pour se défendre.
Charlie a 4 ans, mon enfant à fleur de peau, comble de l'apiculteur. C'est maintenant que j'interviens dans l'histoire et que mon travail de généticien pour créer un sanctuaire de l'abeille entre en jeu. On construisit donc Apissa, Une bulle de 150 km² sur 100 mètres de haut. Une serre de verre bourrée d'air pur chimique, blindée de capteurs à ondes électromagnétiques, baignée d'humidité recomposée. Un biome géant rempli de végétaux qui poussaient auparavant partout. Un musée de la chlorophylle. Une bibliothèque verte. Ils me demandèrent d'y introduire des abeilles, de les élever, de les multiplier pour perpétuer la race, puis de les rendre ensuite à la vie extérieure. On me donna carte blanche, si bien que j'achetais 3 essaims d'Islande et 5 paquets d'abeilles du Tonga pour la modique somme de 500 000 euros chacun. Quelle mouche nous avait piqué pour qu'on en arrive à payer nos essaims un demi-million d'euros? Bien sûr que c'est de la folie, qu'il disait. Mais Fabrice, vous êtes notre unique garde-fou. Je plongeais alors dans les écrits de mon grand-père et me lançais dans des élevages de rennes auxquels, au départ, je ne comprenais rien. La technologie nous avait fait perdre la mémoire et le savoir artisan. L'absence des pollens, indispensables pour les élevages des rennes, eut raison de moi sur mes premières tentatives du solstice d'été. Mais, en ouvrant mes ruches à l'automne, je trouvais des pollens noirs de coquelicots, des oranges du ciste, et même du vert bouteille de buis que la pyrale épargna avant la grande intoxication. Pissenlit, calendula et crocus m'apportèrent ce dont j'avais besoin. Mais aussi citronnelle d'Afrique, offrise d'Amérique, tilleul et toute une foultitude d'autres plantes à pollen qui trônaient fièrement dans ma bulle de verre géant. Et mon expérience marcha. Mes premières filles naquirent sous mes yeux mouillés et sortirent de leurs cellules royales à la force de leurs mandibules. Et mon souffle coupé, et mes lèvres tremblantes, et mes mains de gratte-papier comme les feuilles sur les arbres en plein vent quand elles finissaient par tomber en tournant sur elles-mêmes. Et puis, il y a eu cette journée ensoleillée où j'avais décidé de marquer mes rennes d'un trait de peinture blanche pour les trouver plus facilement et limiter le risque de les écraser. J'en vis une mourir sous mes yeux, comme je l'avais vue naître à trop la stresser, en l'attrapant très connement. Une syncope. Aussi vrai que l'autre jour, Oscar voulait mettre ses chaussures sur son crâne parce que je lui avais dit qu'on marchait sur la tête. Je n'en dormis pas plusieurs nuits.
Est-ce que tu es vraiment apiculteur, papa ?
Je suis généticien. Et apiculteur, oui. Il m'a regardé intensément, comme cette génération pressée qui a besoin de résultats algorithmés. Es-tu satisfait de ma réponse, Oscar ?
Ça reste un peu trop pixelisé.
Au solstice de printemps, on considéra que mon affaire roulait. Mais qu'il était temps pour moi de travailler sur le devenir de mes protégés, de les laisser s'envoler. On vous le rappelle, Fabrice, ce n'est pas le monde qui s'adaptera à vos abeilles, mais le contraire. J'avais commencé par injecter en très petite quantité des onces d'air saturées pesticidées, extérieures, diluées à 1 pour 1000, dans une ou deux cellules de couvain, la ponte de la reine. Mais aucune abeille ne naquit dans cet air de rien. Même sous cette forme hyper légère, l'oxygène épuré restait pour elles un poison et ne leur donnait aucune chance de survie. Parallèlement, j'avais modifié l'ADN de certaines de mes colonies, changeant très subtilement les structures moléculaires de leurs trachées et de leurs sacs aériens, ajoutant quelques micro-purificateurs et ralentissant leur rythme cardiaque pour les aider à mieux ventiler l'air impur. Je vous entends. Je devine vos pensées critiques. Vous mesurez la schizophrénie de ce que je faisais. Non, je ne créais pas une nouvelle Apis OGM. Je faisais des essais, des essaims, des croisements naturels. J'accélérais un processus en devenir. Avais-je le choix? Lorsque j'observais les ruches, ces milliers d'abeilles qui fourmillaient, leur cadre fauve expressionniste, la palette folle des pollens, la cire couleur sable d'Orient bedonnante qui renfermait le miel doré, lorsque j'observais la poésie collective, l'art de l'osmose du groupe, son unité, son esprit unique, l'oubli de l'individu et même sa non-conscience de ça, je me devais de les sauver.
le célèbre apigénéculteur Fabrice Regazzi, qui avait réintroduit depuis un an des abeilles naturelles dans le biodôme Apissa, est porté disparu depuis une semaine maintenant. Trahison, fuite ou enlèvement, la bataille des rumeurs fait rage sur les réseaux sociaux.
Ce matin, avec les garçons, nous avons goûté ensemble notre première cuillère de miel de bruyère calune. C'était âpre. Puissant. L'émotion et la joie pure des enfants quand ils ont léché le nectar m'a bouleversé. Elle me conforte dans l'idée que nous avons fait le bon choix. Nous et nos colonies sommes en paix en Islande. Bien sûr que nous sommes des fugitifs. Et alors, les choses ont repris un sens. À nouveau, nous sommes, comme les anciens l'étaient, ancrés dans le sol du réel. Le froid, le feu, le renne cuit et fumé, le travail pour se nourrir et s'abriter. Les machines ni les financiers ne sont plus là pour dicter nos actes. L'œil des drones du dôme ne me surplombe plus. C'est fou comme le ciel est beau quand il est vide. Cette nuit, j'ai pris les gosses dans mon duvet, car l'hiver arrive. Collés tous les trois comme des chatons, nous avons fixé la nuit café d'étoiles. Jusqu'à voir les satellites bouger. L'un d'eux s'est arrêté pile au zénith de notre campement. J'ai pas voulu éteindre le feu. Je les emmerde. Je suis l'avenir.